Si vous voulez prendre vos Bibles, alors bonjour à ceux que j'ai pas vus, j'ai pas salué. Soyez tous les bienvenus. Alors on va ouvrir maintenant la parole de Dieu dans 1 Chronique, chapitre 13, et on va lire les versets 1 à 14. David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons des messagers de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les lévites dans les villes où sont les banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous, et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés au temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël depuis le Chishor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath pour faire venir de Kirjath-Jearim l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Bala, à Kirjath-Jearim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab, Uza et Akjo conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérets Uza. David eut peur de Dieu en ce jour-là et il dit, mais comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu ? David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom, dans sa maison, et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartenait. Ici, c'est un épisode de la vie de David qui a été très certainement très instructif pour lui, hein, parce qu'il allait être roi, enfin, il venait d'être en possession de la royauté, c'était le tout début. Hein. Il était maintenant le souverain d'Israël. Alors la première pensée qui lui vient, c'est de rassembler tout Israël, mais les rassembler autour de qui ou autour de quoi ? Autour de l'Éternel, bien sûr, hein. Il n'y a que lui qui peut rassembler son peuple. Alors David a cette bonne pensée, il dit, mais l'arche de l'Éternel, ça fait longtemps qu'on l'a mise de côté, on va la ramener à Jérusalem. Saül, l'ex-roi, ne s'en était pas soucié. Alors David prend la chose à cœur. Aujourd'hui, on sait que Dieu n'habite pas dans un lieu en particulier, hein, ou sur une arche, puisqu'il est venu maintenant habiter dans nos cœurs, et celui qui le reçoit, celui qui l'accepte dans sa vie, eh bien Dieu est là, il est là avec lui. Mais à l'époque, l'arche, ça représentait le lieu où Dieu résidait. L'arche, c'était un coffre en bois qui était couvert d'or. À l'intérieur de l'arche, il y avait le pot de manne, la chose qu'il mangeait dans le désert pendant 40 ans. Il y avait les tables de la loi de Moïse. Il y avait la verge d'Aaron, le bois qui avait repris vie, hein, qui avait fleuri. Et puis sur le couvercle, qui est appelé le propitiatoire, il y avait deux, certainement des petits anges, hein, parce que sinon ils n'auraient pas pu la porter, des petits anges qui représentaient, enfin, qui protégeaient en quelque sorte l'arche avec les ailes déployées, tout ça en or. Hein. Et il y avait la Shekinah. Il y avait la présence de Dieu qui était ici aussi avec l'arche. C'est d'ailleurs ce que dit notre texte. Hein. Regardez verset 6. Et David, avec tout Israël, montait à Bala, à Kirjath-Jearim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Chérubins étant ces deux anges sur l'arche. Hein. C'est l'Éternel lui-même qui résidait, qui habitait là. Hein. La traduction, notre traduction d'Arbi dit pour en faire monter l'arche de Dieu, l'Éternel, qui siège entre les chérubins, duquel le nom est placé là. Donc l'arche, c'était vraiment la présence de Dieu. Là où il y avait l'arche, eh bien il y avait aussi la présence du Dieu Saint. et Dieu avait choisi d'y demeurer. Alors avoir l'arche avec soi, eh bien, c'était avoir Dieu avec soi. Avoir l'arche, c'était avoir la bénédiction de Dieu. Et ça, eh bien, c'était ce que David recherchait. Il voulait la bénédiction en faisant ramener l'arche. Il aimait Dieu et il voulait la bénédiction non seulement pour lui, mais aussi pour tout le peuple d'Israël. Alors ce que David fait, il tint conseil avec tous les chefs, tous les princes d'Israël. David demande conseil, très bien, c'est biblique, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Et puis ensuite, il fait rassembler tout le peuple et puis il leur dit, on va relire verset 2, « Si vous le trouvez bon, si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons des messagers de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël et aussi vers les sacrificateurs et les lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. » Et là, on voit une attitude qui est louable, le souhait d'amener la bénédiction de Dieu en Israël, ramener l'arche, tout va bien, c'est très bien, hein. D'ailleurs, le peuple n'a rien à redire, tout le monde est d'accord, hein. Regardez verset 4, hein. « Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. » Alors, grand rassemblement, David fait venir tout Israël, il se rend à Kirjat-Jérim, là où se trouve l'arche, et verset 7, « Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab, Uza et Akjo conduisaient le char. » Et là, quoi de plus logique que de vouloir prendre le meilleur pour transporter l'arche de l'Éternel. Ils n'allaient pas prendre un vieux char, là, une charrette, hein, sur laquelle on avait mis des légumes, des céréales, de la paille, des animaux, peut-être des animaux morts aussi. Hein. Non, il fallait prendre le meilleur. Alors, ils ont fabriqué un char spécialement pour mettre l'arche de Dieu. Si vous aviez à transporter, vous, un chef d'État, vous n'allez pas le mettre dans une remorque à bœufs ou pour les animaux, hein. Vous allez vouloir lui donner le meilleur. Eh bien, c'était un peu dans cette logique-là qu'ils ont fait ce char. Ils avaient cette bonne logique de faire un char neuf. Puis verset 8, « David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant, en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales, des trompettes. » Et là, on voit la joie débordante qui s'exprime. David, tout Israël dans la joie, dans l'euphorie, hein. Il le manifeste par les chants, les danses, la musique, c'est le bonheur. Ils ont eu un bon désir de faire monter l'arche. Ils sont en train de satisfaire ce désir, de faire la chose. Et là, plein de joie, ils sont heureux de faire ce qui est bien. Versets 9 et 10. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. Et là, on ne comprend plus ce qui se passe. Le jugement vient de s'abattre sur ce pauvre Uza, hein, qui voulait bien faire. L'arche, elle serait peut-être tombée, elle se serait brisée. Donc, il a anticipé le malheur qui allait arriver. Il a voulu protéger l'arche. Mais dès qu'Uza fait ce geste, il est frappé par Dieu. Et puis, il tombe là, mort. Et là, on voit, eh bien, les jugements de Dieu sont parfois vraiment sévères, très sévères, exemplaires. Alors, ce qui s'enchaîne dans le cœur de David, c'est d'abord la colère et l'incompréhension. Regardez versets 11 et 12. « David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérets-Uza. » Et puis ensuite, David eut peur de Dieu en ce jour-là. Il dit, « Mais comment ferais-je entrer l'arche de Dieu chez moi, dans ma maison ?» Alors d'abord, David s'irrite parce qu'il trouve ça injuste. Uza voulait faire une bonne action. David voulait faire une bonne action. Et là, en fait, il se dit, mais le jugement, il est sévère, il est injuste, il est presque méchant, quoi. Méchant. Et David, là, ne comprend plus Dieu. Il croyait qu'il connaissait Dieu. Et là, il se dit, mais en fait, je ne le connais pas, quoi. Dieu, il est autrement que ce que je pensais, hein. Et si Dieu frappe comme ça, arbitrairement, paf, eh bien, ça fait peur. Parce qu'on se dit, mais il peut me frapper aussi moi, il peut frapper un autre. David eut donc peur de Dieu en ce jour-là. Il s'est dit, mais est-ce que Dieu serait imprévisible, caractériel, impulsif? Mais on voit en fait, quand on lit la suite de l'histoire, que cette incompréhension, il a dû être devant Dieu en demandant au Seigneur, mais pourquoi je ne comprends pas? Et Dieu ne l'a pas laissé longtemps sans comprendre. Dieu lui a révélé qu'il ne juge pas d'une manière arbitraire et qu'il est juste dans tout ce qu'il fait, dans tous ses jugements. Il ne frappe pas comme ça sans raison. Regardez chapitre 15, un petit peu plus loin, et on va lire verset 12. Chapitre 15, verset 12. Un chronique, David leur dit « Vous êtes les chefs de famille des Lévites, sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël. » Donc c'est une nouvelle tentative pour faire remonter l'arche. Et il dit « Parce que vous n'y étiez pas la première fois, vous les Lévites, l'Éternel notre Dieu nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. » Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné, d'après la parole de l'Éternel. Et là, on voit le problème, c'est que David ne s'était pas conformé à ce qui était écrit dans la loi de Moïse. En fait, il n'avait pas agi selon la volonté de Dieu. Il voulait la présence de Dieu à Jérusalem, pour lui, pour le peuple, il voulait la bénédiction de Dieu, mais il a utilisé un mauvais moyen pour le faire. Personne n'avait le droit de toucher l'arche, excepté les sacrificateurs et les Lévites. Eux, ils étaient sanctifiés pour l'Éternel, ils étaient mis à part pour l'Éternel. Dieu les gardait, les protégeait et exiger d'eux qu'ils se gardent dans la sainteté pour pouvoir transporter l'arche de l'Éternel. C'était leur ministère, eux pouvaient la manipuler, pouvaient la transporter, faire tout ce qu'il fallait. Et lorsque David a lu ça dans la loi, ou quand il s'en est souvenu, ou un prophète peut-être le lui a dit, alors soudain il a compris. Nous n'avons pas cherché l'Éternel selon la loi. Et là, on a dans cette histoire de David un schéma classique de ce qui peut arriver dans nos vies chrétiennes à nous. Ça nous arrive à nous aussi. On le vit. Ça commence avec un désir de la présence de Dieu. On veut la bénédiction de Dieu. On souhaite qu'il soit avec nous. On veut finalement qu'il soit avec nous, qu'il y ait une approbation sur ce que l'on fait. Mais on utilise un mauvais moyen pour essayer d'atteindre la bénédiction. C'est ce que David a fait. Il s'est fourvoyé sur la manière de transporter l'arche à Jérusalem. Il a cru qu'il aurait la présence et la bénédiction, mais en faisant à sa manière, comme lui il pensait. Ensuite, on est dans la joie. On est dans la joie. On est porté par des bons sentiments, là, parce que, en fait, on se dit que tout va bien, on est en train de faire ce qu'il faut pour ramener la bénédiction et des choses bonnes. Il y a l'euphorie, il y a le bonheur, mais en fait, tout ça, c'est charnel. Tout ça, c'est charnel. Nos sentiments sont des sentiments qui sont trompeurs, qui ne viennent pas de Dieu. Les sentiments de David ne venaient pas de Dieu. Et puis, soudain, il y a un jugement qui tombe. Un jugement qui tombe, il y a une désapprobation. Il y a un châtiment, il y a quelque chose qui vient nous arrêter là, dans notre élan. Dieu s'interpose, la bénédiction, elle n'est pas là. Et on voit soudain les conséquences de notre erreur. Et puis alors là, eh bien Dieu peut paraître sévère, peut se dire, on ne comprend pas, c'est incompréhensible. Et c'est vrai que parfois, on peut tomber dans l'irritation et dans la colère aussi, parce qu'on ne comprend pas Dieu. Pourquoi le Seigneur a permis cela ? Et la racine, c'est que nous ne l'avons pas cherché selon la loi, selon sa parole. On ne l'a pas consulté, on n'a pas cherché à savoir ce qu'il voulait nous dire à ce sujet. On a fait selon sa propre volonté, en pensant que comme ça, on aurait la bénédiction de Dieu. David, vous avez peut-être remarqué, il n'a pas consulté l'Éternel. Pourtant, David, il avait l'habitude de consulter l'Éternel. D'habitude, il faisait toujours comme ça, il consultait l'Éternel et après il agissait. Là, il ne consulte pas l'Éternel. Il tient conseil avec les chefs, avec les grands. Il leur demande conseil, c'est bien, il faut demander conseil. Mais quand on délaisse le conseil de l'Éternel, la loi de Dieu, sa parole, c'est jamais bon pour nous. Et puis ensuite, ça s'enchaîne très vite. Un mauvais moyen est utilisé, des bons sentiments semblent nous rassurer, et puis soudain, désapprobation du Seigneur. C'était pas ça. Ici, David voulait faire du bien à tout Israël en ramenant l'arche à Jérusalem. Il visait son bonheur, mais le bonheur de tout le peuple. Mais le problème, c'est qu'il a pris des libertés. Il s'est senti libre. Libre de faire comme bon lui semblait avec l'arche. Mais si c'est vrai, hein, il y a une liberté dans la volonté de Dieu. Dieu ne nous enserre pas, ne nous rend pas prisonniers d'une manière étouffante. Hein. Il y a une liberté merveilleuse dans la volonté de Dieu. Et tous ceux qui marchent dans le Seigneur, eh bien, peuvent le dire. Mais dans le domaine du transport de l'arche, Dieu avait dit non. Ça se passe comme ça. Dieu était scrupuleux avec les ordres qu'il avait donnés. S'il y avait des anneaux, et vous savez, des anneaux qui étaient accrochés, des barres pour passer dans l'arche pour la porter, c'est que c'était pour une bonne raison. Et c'est intéressant de voir que parfois, on voit une illustration, une photo, une image, ou la reconstitution d'une arche de l'Éternel, et en fait, elle n'est pas exacte. Pourquoi ? Parce que parfois, on voit les anneaux qui sont représentés sur le haut du coffre. Vous savez, de chaque côté, là, quatre anneaux sur le haut du coffre avec les barres insérées dedans. Et en fait, ce n'était pas comme ça qu'était l'arche. Les anneaux, ils étaient en bas. Ils étaient tout en bas. De manière à ce que quand on passait les barres et que les Lévites soulevaient l'arche et la posaient sur les épaules, l'arche était au-dessus. Elle n'était pas à leur niveau. Elle était au-dessus. Ça montrait quelque chose, c'est que Dieu est l'autorité. Il est supérieur. Et quand Dieu nous dit qu'il faut faire quelque chose selon sa parole, eh bien, il faut lui faire confiance. Il faut se soumettre. Il faut lui obéir. Agir selon sa parole. Il y a une liberté en Christ, mais on n'est pas libre de faire n'importe quoi. Parce que si on le fait, eh bien après, il y a des conséquences. Et parfois, on prend des libertés avec soi-même, on prend des libertés avec sa famille ou dans sa famille, on prend des libertés dans l'église locale que l'on fréquente, tout en désirant la bénédiction de Dieu. On veut la bénédiction de Dieu. On est des enfants de Dieu, on aime Dieu, on le désire dans nos vies comme David. Mais on doit apprendre comme David que sa présence, sa bénédiction, elles ne peuvent pas nous parvenir si on ne se conforme pas à ce qui est écrit dans sa parole, dans la loi. Il faut le rechercher selon la loi. Par exemple, tout chrétien, normalement, désire la présence et la bénédiction de Dieu dans son couple. On veut que Dieu soit là dans notre couple. Ou un couple chrétien désire normalement avoir la bénédiction de Dieu sur ses enfants. Ou le chrétien, normalement, il cherche la bénédiction dans son église locale. Il veut être béni, il veut que Dieu soit là. En tant qu'enfant de Dieu, la présence et la bénédiction du Seigneur, c'est ce à quoi nous aspirons. On a soif de lui. Mais est-ce qu'on utilise les bons moyens pour que, eh bien justement, Dieu soit là ? Qui est la présence, qui est la bénédiction de Dieu. Vous savez, l'arche ne montera pas chez nous si on ne fait pas comme Dieu l'a ordonné. Elle ne montera pas chez nous. Pour le mariage notamment, c'est important d'agir selon la parole de Dieu. Si c'est Dieu, si c'est sa présence, sa bénédiction sur notre mariage que l'on recherche, alors on ne peut pas se permettre des libertés et puis faire un peu comme on a envie. Pour avoir l'arche avec nous, dans notre foyer, il faut la monter de la bonne manière. Parce qu'on peut aussi se fier à son propre cœur, à son propre jugement sur la chose. On peut se fier à ce que pensent les autres. Voilà, David il s'est fié à ce que pensaient les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Mais l'important, c'est avant toute chose de se conformer à ce qui est écrit dans sa parole. Il faut chercher l'Éternel selon la loi. C'est comme ça que l'arche, elle est avec nous. Elle est dans le couple. C'est pour cela que le Seigneur nous donne des recommandations, notamment sur le choix d'un conjoint. Dieu le dit, on le sait, hein. Il est dit, ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Mais il est aussi écrit, hein, ailleurs, que Dieu veut qu'on se marie, mais dans le Seigneur. Dans le Seigneur. C'est-à-dire dans sa volonté, avec la conviction que oui, c'est bien ce que Dieu veut, Dieu va bénir mon union là, c'est sa volonté. Il ne suffit pas d'attraper le premier chrétien ou la première chrétienne qui nous plaît, et puis hop, alors là, on court à la catastrophe. Il faut faire selon ce qui est écrit, dans le Seigneur, dans sa volonté. Ça, c'est la recommandation du Seigneur pour avoir l'arche avec nous. Parce que sinon, eh bien, on va passer par les mêmes étapes que David. Regardez, première étape, on utilise, comment dire, on fait le choix de son conjoint, mais avec des mauvais moyens, mauvaises méthodes, en se basant sur soi, en ne se basant pas sur ce que Dieu dit. Ensuite, on éprouve de la joie, il y a du bonheur, il y a toujours du bonheur, hein, dans un jeune couple en général, ou un vieux couple, hein, vous avez vu, ici on peut se marier aussi âgé, hein, il y a de la joie, il y a du bonheur, c'est normal. Et vous savez, quand il y a de la joie, quand il y a du bonheur, parfois ça nous rassure. On se dit, ben, c'est normal, ça y est, j'ai l'approbation de Dieu, je me sens si bien là, je suis si heureux. Mais les sentiments, on l'a vu, hein, parfois c'est trompeur. Et puis un jour, les yeux s'ouvrent, et là on réalise, on se dit, j'ai peut-être fait erreur. Bien sûr, il est écrit que Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire, il est là, il ne nous abandonnera jamais, merci Seigneur. Mais agir d'une manière contraire à ce qu'il dit, ce n'est pas le meilleur moyen pour faire monter l'arche chez soi. C'est prendre le chemin le plus difficile, hein. Parfois, c'est dans la famille. On désire que l'arche soit dans la famille, avec nous. Et il y a un désir légitime de voir sa famille, ses enfants, bénis par l'Éternel. On veut tous que nos enfants soient sauvés. On veut qu'ils marchent avec le Seigneur. Qui ne le voudrait pas, hein, qui est enfant de Dieu. Mais là aussi, il faut suivre les recommandations de l'Éternel. Il faut vivre selon la loi, selon la parole de Dieu, dans la famille. Et là, je vous dirais que j'ai tout à apprendre. Moi, j'ai des petites filles, hein, toutes petites, hein, c'est devant moi. Mais néanmoins, eh bien, je peux me cacher derrière la parole de Dieu, parce qu'elle est vraie pour vous, elle est vraie pour moi. C'est la vérité, c'est ce que Dieu nous demande. On va prendre, gardez votre main dans Chronique, Deutéronome chapitre 6. Versets 5, 6, 7. Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Alors ici, ces paroles, c'est la loi de Moïse, ça a été donné à Israël, hein, mais quand même, il y a toute une application pour nous, c'est valable aussi pour nous. Hein. Les parents chrétiens, ils ont une responsabilité personnelle de vivre leur foi d'une manière vivante, vraie, sincère, dans leur foyer, dans leur maison. En fait, c'est à chacun de nous d'aimer Dieu au milieu de notre famille. Il est évident que si les enfants ne nous voient pas aimer Dieu, s'ils ne nous voient pas prier, s'ils ne nous voient pas ouvrir la parole de Dieu, si ce n'est le dimanche matin à l'église, eh bien, ça ne va pas être un bon départ pour nos enfants. Hein. C'est à nous de parler du Seigneur dans notre maison. Et partout où nous sommes avec nos enfants, même en voyage, il dit, au coucher, au lever, il faut qu'on les enseigne. Qu'on les enseigne dans la parole de Dieu. Dieu le premier veut être avec nous, il veut bénir nos enfants, il veut bénir notre famille, mais il nous a donné sa parole qu'il nous faut suivre pour connaître sa présence et sa bénédiction. Pour que l'arche soit dans notre maison, dans notre famille, en fait, il faut vivre ce qu'on a chanté tout à l'heure. On a chanté « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. En toute occasion, nous désirons lui plaire. » Vous savez, quand on vit ça, « En toute occasion, nous désirons lui plaire. »
Eh bien, les enfants, ils sont entraînés avec nous.
Parce que quand les enfants nous voient vivre une foi qui est vraie, qui est vivante, qui est sincère avec le Seigneur, eh bien, ils ont toutes les chances après de nous suivre. En fait, c'est l'hypocrisie religieuse, c'est le masque chrétien que l'on prend le dimanche et que l'on range la semaine. C'est ça qui fait du tort à la famille. C'est ça qui tue la famille. Pour faire monter l'arche, il faut prendre toute la Bible, il faut prendre tout le conseil de Dieu, et puis ben, faut le vivre chaque jour de sa semaine. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. N'irritez pas vos enfants, etc., etc., etc. En faisant ce que Dieu nous dit, en agissant selon ce qui est écrit, alors eh bien, il n'y a aucune raison que l'arche ne monte pas dans notre maison. Hein. Elle va monter. Mais on a aussi besoin de l'arche dans l'église locale. On a besoin de sa présence, on a besoin de sa bénédiction dans l'église. Et il ne suffit pas de vouloir la bénédiction comme David l'a voulu, pour qu'automatiquement, eh bien, la bénédiction, ça y est, elle est là, la présence de Dieu, elle est là, dans toute sa majesté. Si le peuple de Dieu n'agit pas comme le Seigneur lui demande d'agir, s'il ne vit pas selon sa parole, alors eh bien, Dieu ne peut pas remplir les cœurs, les vies, l'Église, comme il le voudrait. Et on en a un exemple criant, c'est avec l'Église de Corinthe. Paul a voulu remettre de l'ordre dans cette église de Corinthe, dans cette assemblée, parce que ça partait dans tous les sens. C'était une vraie cacophonie, c'était le désordre, l'injustice, les disputes, les esprits de parti, la débauche même, c'était et pas d'ordre. Et on ne peut pas douter que les chrétiens de Corinthe voulaient la bénédiction de Dieu. Bien sûr qu'ils voulaient la bénédiction de Dieu. Étant des enfants de Dieu, on le voit notamment dans leur pratique, même excessive, des dons. Hein? Ils voulaient la bénédiction de Dieu. Mais en fait, ils cherchaient à faire monter l'arche par leurs propres moyens. Par leurs propres moyens, par leurs propres forces. Ils agissaient, mais ils agissaient d'une manière qui était charnelle. C'est, quand vous lisez l'épître aux Corinthiens, mais c'est ça, hein, ils étaient charnels dans cette église. Et dans l'église, il faut aussi que l'on veille à employer un bon moyen, de bons moyens, pour rendre un culte à l'Éternel, pour servir l'Éternel. Si David, il avait fait partie de notre temps, s'il avait fait partie de l'église, eh bien on aurait dit, bon, c'est un chrétien charnel, hein. Lui il en fait qu'à sa tête, hein. Il fait comme il pense que c'est bien pour amener l'arche, hein. C'est un chrétien charnel. Et il ne suffit pas de faire monter l'arche, de vouloir faire monter l'arche pour qu'elle y monte effectivement. On peut aussi, dans l'exercice du culte, avoir de la joie, avoir de l'euphorie, avoir du bonheur. Mais ça, ce n'est pas la preuve de l'approbation de Dieu, vous savez. Il y a une joie qui est charnelle, il y a une joie qui est factice, il y a une joie qui est trompeuse. Quand on voit par exemple l'église de Corinthe, qui dans sa pratique fait le contraire de ce que Dieu veut, faisait complètement le contraire. Je ne crois pas que c'était sans importance pour le Seigneur. Que c'est bon, ben, c'est vrai, Dieu aurait préféré que ce soit plus ordonné, plus comme ça, mais ce n'est pas grave. Hein. Je ne crois pas que Dieu réagisse comme ça. Si ce n'était pas grave, Paul n'aurait jamais écrit l'épître aux Corinthiens. Il n'aurait pas écrit, puisque ce n'est pas très important. Si ce n'était pas grave, le Seigneur ne nous aurait pas dit dans l'Épître aux Hébreux, « Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Si ce n'était pas grave, dans la lettre de l'Apocalypse, hein, Christ ne serait pas à la porte de l'Église de la Odyssée, la dernière église, c'est-à-dire l'église d'aujourd'hui, de nos temps. Il est à la porte, et puis il frappe, attendant, espérant un esprit de repentance, et puis un cœur vraiment sincère, vraiment droit, vraiment pur devant le Seigneur. Si ce n'était pas grave, ça ne serait pas ça, mais malheureusement, eh bien, c'est ça. C'est ça. Alors peut-être qu'il y a parfois il y a de la joie, on bouge, il y a des trompettes, il y a des cymbales, comme pour David. Mais attention, les sentiments, c'est trompeur. Si on ne vit pas et si on ne fait pas
selon ce qui est écrit dans les Écritures, eh bien, on ne va pas attirer la bénédiction. On va plutôt l'éloigner, hein, l'éloigner. Et on va vivre, eh bien, dans une chimère.
Uza a touché l'arche comme il a voulu. Et il s'est effondré.
Uza, ça veut dire force. Son nom, ça veut dire force.
Uza, ça représente la force de l'homme. La force de l'homme qui veut plaire à Dieu. Qui veut faire les œuvres de Dieu. Qui veut travailler pour Dieu. Qui veut faire la bénédiction de Dieu. Qui veut faire monter la bénédiction de Dieu. Mais en fait, qui ne peut pas faire descendre la bénédiction de Dieu. L'homme ne peut pas faire descendre la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que sans Christ, on ne peut rien faire. Notre force ne peut rien faire. En Zacharie, on lit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, ni par Uza. Mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. La puissance ou la force de l'homme, elles ne peuvent pas offrir à Dieu une adoration, une louange, un sacrifice qui lui est acceptable. Uza ne pouvait pas plaire à Dieu en déplaçant l'arche à sa manière. Et si on veut lui plaire dans l'Église, si on veut le servir dans l'Église, alors il est essentiel de se pencher sur ce que disent les Écritures et de vouloir faire selon ce que disent les Écritures. Il faut se conformer à sa parole dans la pratique du culte, mais aussi dans les ministères, dans les services et dans tout ce qu'on veut offrir au Seigneur. Et si on veut que l'arche monte chez nous, personnellement, dans notre couple, dans notre famille, dans notre église, eh bien, il faut faire ce que Dieu nous demande. Reprenez 1 Chronique, chapitre 13, verset 14. Ce beau verset, 1 Chronique 13, 14. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom, dans sa maison, il le répète. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Edom. Et tout ce qui lui appartenait. Tout ce qui lui appartenait. Obed-Edom, il n'a rien demandé finalement. Hein. David s'est débarrassé de l'arche chez lui. Vous voyez ça? Il a dit, bon allez, je ne sais pas ce qu'il avait contre Obed-Edom. Hein. Il l'a envoyé chez lui. Mais la bénédiction de Dieu était sur Obed-Edom, sur toute sa maison, sur tout ce qui lui appartenait. L'Éternel était là, il était avec eux, c'était une évidence. On sait que pour Israël, la bénédiction, elle était physique, elle était matérielle. Hein. On le voit hein, dans l'Ancien Testament, tandis que Dieu veut aussi nous bénir matériellement. Hein. Il le fait, mais pour nous, eh bien, la bénédiction, elle est essentiellement spirituelle. Hein. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc pour Obed-Edom, lui, il a dû voir ses troupeaux se multiplier. Voilà, d'un seul coup, les bêtes étaient fécondes. Ses récoltes étaient abondantes. Sa femme enfantait, lui donnait des fils, des enfants, des filles. Et puis les fils et les filles étaient en bonne santé. Dieu était là. Dieu était avec eux. Alors quand David apprend ça, il se dit, mais c'est ça que je veux, moi. Je ne peux pas laisser l'arche là-bas, quoi. Je veux qu'elle vienne aussi chez moi. La présence et la bénédiction de Dieu, c'est ce qu'il voulait le plus au monde. Pour lui, comme pour Israël. Alors, eh bien, il s'est conformé à ce que disait la loi de Moïse. Il a envoyé les Lévites pour qu'ils portent l'arche. Il s'est conformé à la loi, ils l'ont portée sur les épaules. Ils ont fait tous les sacrifices même, sacrifices nécessaires à chaque fois, dans l'avancement de l'arche vers Jérusalem. David s'est attaché aux Écritures. Et l'arche est montée à Jérusalem, et Dieu était avec David à Jérusalem. Il avait sa bénédiction. Et si on veut sa bénédiction, alors eh bien, il faut agir selon sa parole. Et on lit dans les évangiles que Jésus nous l'a enseigné, hein, en d'autres termes, puisqu'il a dit, Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Nous serons avec lui. C'est la bénédiction. Mais il y a une dernière leçon que j'aimerais relever. C'est que même si, comme David, on a chuté, on a agi comme il nous semblait bon de le faire, sans consulter l'Éternel, sans suivre ce
qui était écrit dans sa parole. Et même si on a vécu une perte, vous savez, des fois, on en vit une perte, hein, une souffrance à cause de la désobéissance. David a vu Uzza subir les conséquences de sa désobéissance. Vous avez imaginé, c'est lui qui a entraîné Uzza. Hein. Alors, eh ben, connaissant David, il devait être brisé, quoi, en se disant, mais c'est moi qui ai envoyé cette brebis là, et c'est lui qui a été frappé. Mais Dieu nous permet toujours de redresser la barre. Et ça, c'est sa grâce. David a compris, David s'est repenti, et puis il a fait ce qu'il aurait dû faire au début. Et Dieu fut avec lui dans la suite de sa vie. Et c'est encourageant de savoir qu'il est toujours, toujours possible de faire maintenant ce qui est bien, même si on n'a pas fait ce qui était bien avant. David ne pouvait pas ressusciter Uzza, ça c'était pas possible. Mais maintenant, il pouvait faire en sorte d'éviter que d'autres meurent de la même manière. La leçon était comprise. Maintenant, il allait chercher l'Éternel selon sa loi. On va s'incliner dans la prière.